Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses qui font aussi dialoguer les cuisines grâce à la présence du chef Maurice Sacco, qu'on retrouvera non pas à l'antenne comme chaque semaine à 12h25 pour sa chronique aujourd'hui, mais sur notre site bien entendu. Et pour entrer dans la nouvelle année et pouvoir enchaîner sur la galette après les agapes qui se sont succédées ces dernières semaines, tout en rompant la monotonie et le froid hivernal qui nous a surpris, nous avons eu envie de mixer un voyage gourmand où les herbes sauvages parfument les plats, où la charcuterie se mérite, où le bruccio se glisse partout et où le vin, le miel et l'huile d'olive parlent autant de terroir que d'histoire, avec la fraîcheur, la légèreté et la saveur sucrée mais finement acidulée d'un fruit dont la récolte célèbre ses 100 ans, le tout dans un environnement gorgé de soleil, entre maquis, mer et montagne, place donc aux saveurs corses et à sa fameuse clémentine, en compagnie d'un chef à la fois authentique et singulier, en témoigne la cuisine de son restaurant, Jean Costantini. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du restaurant A Casa Luna à Paris, repère incontournable des Corses à Paris et des non-Corses, cela dit. Mais les non-Corses, c'est les Pinzuti. Et les Pinzuti, ils sont les bienvenus.
Oui, quand même.
A Casa Luna, c'est une affaire de famille ?
Oui, tout à fait. C'était le restaurant de ma cousine, qui est toujours associée avec moi d'ailleurs, qui maintenant habite en Corse en fait, et c'est moi qui m'en occupe.
Vous êtes à la fois tout seul le représentant de ces saveurs corses que vous avez réunies dans un magnifique livre qui s'appelle Corsica, chez Ducasse Édition, avec les photos non moins magnifiques de Calvin Courgeon. Je dis que vous êtes non seulement ce représentant, mais parce que c'est un portrait culinaire à travers l'île et ses agriculteurs, ses agricultrices, ses artisans de bouche, puisqu'on retrouve 80 recettes et portraits et des producteurs, il y en a 38, je crois, si j'ai bien compté,
oui,
dans ce livre. On ne mange pas la même chose, Jean Costantini, dans le Cap Corse ou à Bonifacio, près de la mer ou à la montagne. De quelle Corse êtes-vous, vous ?
Moi, je suis originaire, en fait, du Nord, pas loin de Bastia, en fait. Et oui, c'est vrai qu'on ne mange pas la même chose, que ce soit du Nord ou le Sud, parce que tout simplement, déjà, qu'on soit montagnard ou pêcheur, ce n'est pas la même chose. Voilà.
Il y a beaucoup de poissons, quand même, qu'on retrouve dans votre livre, bien entendu. Mais il y a beaucoup d'autres choses, et c'est ce dont on va parler au cours de cette émission. Quels adjectifs vous utiliseriez pour qualifier l'île, et partant la cuisine qu'on y trouve, avant même de qualifier la vôtre ? Parce que ce qui revient souvent dans ce livre, Corsica, Jean Costantini, c'est le mot radical. Ou alors, son corollaire, le mot brut. C'est radical pour vous, la cuisine corse ?
Non. Je dirais que moi, des fois, je travaille de manière radicale ma cuisine, mais je dirais pas que le terroir corse est radical. Je dirais qu'il est, très fin, parce qu'il y a une quantité de produits différents et un raffinement dans l'authenticité brute, en fait. Moi, je les travaille de manière très radicale. J'essaye d'alléger en gras, d'aller à l'essentiel et vraiment de sortir des goûts à chaque fois très simples, mais qu'on comprenne tout de suite ce que l'on mange. Ça, c'est ma vision à moi. Après, je dirais pas que la cuisine corse est radicale, vous voyez, parce qu'il y a un travail sur n'importe quel produit où on va vraiment, quand on voit le temps qu'on passe pour faire la farine de châtaigne, on comprend que c'est pas radical. Quand on a de la farine de châtaigne, c'est entretenir les châtaigneraies, ramasser les fruits à la main, les passer entre deux pierres, à la fin faire un tri. Vous voyez, la minutie et la complexité de ce travail. Je pourrais pas dire que c'est radical. Après, voilà.
Pour les Pinzuti donc, que nous sommes, c'est-à-dire les Français de métropole, quand on parle des saveurs corses, la première chose, ce serait quoi ?
Pour les gens du continent ?
Ouais.
Ah ben eux, ils disent toujours la charcuterie et le fromage. Parce que c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre. C'est que j'en avais marre à chaque fois que les gens
venaient chez moi. On vous ramène à la charcuterie au fromage.
Non, mais c'était les clients qui me disaient. Ils me disaient, écoute, Jean, j'étais content, on allait t'amener quelqu'un. Mais dès que je lui ai dit, il m'a dit, oh là là, j'étais pas très content d'aller dans un restaurant encore. Je me suis dit, on va encore manger de la charcuterie et du fromage. c'est vrai que c'est un peu agaçant quand on voit d'ailleurs la démonstration qui est faite grâce à ce livre, c'est quand même qu'il y a 80 ingrédients emblématiques qui sont faits par des familles et qui perpétuent les savoir-faire ancestraux de chacun de ces ingrédients. C'est un des plus grands, d'un des terroirs les plus riches de France. C'est incroyable d'avoir comme ça 80 ingrédients et des familles qui perdurent tout ça.
Or, cela dit, il y a quand même de la charcuterie.
Bien sûr.
Encore, c'est dans ce livre.
Évidemment.
Le Prisutu, qui est le jambon maigre.
Prisout.
Prisout. Bien sûr, bien sûr. La copa.
La copa.
L'échine de porc taillée dans la poitrine et entrelardée, salée et séchée dans un boyau naturel. Le lonzo.
Lonzo, oui. C'est bien, c'est bien.
Non,
c'est pas mal.
Filet de porc qui conserve sa couche de gras. Bon, il y a de la charcuterie, il y a évidemment du fromage, on va y revenir, mais il y a des herbes.
Bien sûr.
Beaucoup, beaucoup d'herbes.
Bien sûr.
L'origan, la marjolaine.
La nébida.
C'est quoi la nébida?
La nébida, c'est sur le continent, on dit souvent que c'est de la ça ressemble à la marjolaine. On dira que c'est une herbe spécifique à chez nous. On dira que c'est une marjolaine qui a des notes légèrement mentholées. Voilà.
Vous la faites.
Mais nous, on dira que c'est la nébida, ça ne ressemble à rien d'autre.
Ça s'écrit N-E-P-I-T-A.
C'est ça.
Et vous l'utilisez, Jean Costantini, dans une recette typiquement corse, hein, de chevreau de lait cuit à l'étouffée.
Oui, le cabri, tout à fait. En fait, on fait. On fait comme un cabri à l'istrette, ça veut dire c'est. C'est comme un stouffate de veau, en fait, mais fait avec du cabri. Et quand on a fini, on effiloche, en fait, la viande. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que on la presse avec de la nébida pour faire comme des poulpettes, en fait, comme des boulettes. Mais en fait, c'est que de la chair de viande effilochée. Et quand on les ouvre, on a vraiment les effluves des herbes qui nous arrivent dessus en ayant une viande vraiment très, très fondante. Oui, c'est quelque chose qu'on fait. En fait, tout à fait.
Vous êtes à moitié corse,
oui.
À moitié parisien.
Tout à fait.
Si je vous parle des saveurs, des souvenirs gustatifs et olfactifs de la Corse, de votre enfance, c'est ça, par exemple, c'est la nébida?
Oui, par exemple, tout à fait. L'odeur de l'herbe à baronne, c'est le thym. C'est le thym de chez nous qui a une odeur qui pousse en altitude, on l'a à partir de 800 mètres, qui a une odeur très particulière, un thym un peu citronné, un peu frais. C'est l'immortel. Vous savez, Napoléon disait « Partout, de loin, les yeux bandés, je reconnaîtrai la Corse ». Et c'était ça, en fait. C'était l'odeur de l'immortel, en fait, qui faisait penser. Quand on arrive, en fait, quand les gens prennent le bateau, et quand on arrive en Corse, en fait, on ressent ces odeurs, en fait. Et
on dit effluves. Rapidement, c'est les odeurs du maquis.
Oui, oui, tout à fait. Mais c'est ça. C'est ça, en fait. C'est toutes ces herbes spécifiques à chez nous.
Et puis la châtaigne.
La châtaigne, tout
la
à
châtaigne.
Fait.
Alors, il y a quelque chose dans votre ouvrage sur la Corse, en tout cas Corsica, votre Corse, parce que c'est vraiment votre regard sur la Corse et votre cuisine corse. C'est le pain corse. Je vous laisse le prononcer parce que je suis sûre que je vais me tromper. Le pain corse qui est fait à partir de la châtaigne, à partir de la farine de châtaigne. C'est la
oui,
poulenda.
Non, là vous parlez de la poulenda.
Ouais.
La poulenda, c'est pas du pain. La poulenda, c'est de la farine de châtaigne où on met de l'eau. En fait, c'est un plat traditionnel, en fait, que j'adore, hein, qui se mange avec le figadel. D'ailleurs, j'en ai mangé là quand j'étais en Corse il y a deux semaines. On en a fait une avec des amis. C'est vraiment, vous voyez, vous faites un feu, je regardais la crèche que les enfants avaient faite. On fait griller le figadel ou dehors et on fait une poulenda. Une poulenda, c'est de la farine de châtaigne qu'on passe au tamis, qu'on tamise, en fait. On met de l'eau et on va la dessécher, en fait, sur le feu, la cuire pendant, en gros, 25 minutes. Alors, il faut avoir de bons bras, hein, parce que en gros, les quantités, c'est pour un kilo de farine de châtaigne, on met un litre et 800 grammes d'eau. Et pendant 25 minutes, vous allez tourner. Je peux vous dire que déjà, il vaut mieux être deux, hein, parce qu'il faut mieux un qui tient la casserole et l'autre qui tourne. À la fin, quand on a fini, quand elle est prête, en fait, on la fait souffler une fois, on la retourne dans un torchon où on a mis un petit peu de farine de châtaigne, on la boule, on la coupe, et voilà comment on la mange. On la mange avec le figadello. Mais on ne peut pas dire que c'est du pain, en fait. C'est pas vraiment un pain, c'est vraiment de la poulenda.
Alors que.
Et le lendemain, on la garde et on peut la faire frire. Et alors là, c'est encore incroyable. Ça a un autre goût, mais c'est.
Bon,
c'est
vous, super. En tout cas, vous faites un pain feuilleté à la châtaigne.
Alors ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de la poulenda. Voilà, ça n'est pas de la poulenda.
C'est de la châtaigne quand même.
Tout à fait.
Cas.
C'est de la farine de châtaigne.
Voilà.
En fait, la différence, c'est que déjà, on ne pourrait pas faire de pain. Pour faire un pain feuilleté, il faut que le pain, faut pouvoir tisser un réseau glutineux, donc il faut du gluten. Donc on ne peut pas faire un 100% farine de châtaigne. Et c'est pour ça que moi, dans mon livre, j'ai montré aussi que c'était superbe de pouvoir mettre... ça se faisait déjà, hein, ça, de mettre un peu de farine de châtaigne et un peu de farine de blé. Mais par contre, le tourer comme un croissant, comme j'ai appris à faire quand je travaillais avec Cédric Rollet pour faire la viennoiserie, bah, du coup, on a réussi à avoir quelque chose de hyper croustillant, hyper alvéolé, hyper fondant, et au final amener de la légèreté à ce pain à la châtaigne qui pouvait des fois être un petit peu lourd. C'est ça qui a été très bien.
C'est aussi pour alléger cette oui. cuisine corse qui a l'image effectivement d'une cuisine plutôt riche, avec sa charcuterie, son fromage, mais pas seulement, aussi avec son huile d'olive, avec toutes ces matières grasses, on va dire. Et vous parlez du figadet, le loup d'ailleurs, on va y venir. Est-ce que c'est justement pour alléger cette cuisine, la moderniser, la réinventer, la rénover, que vous, Jean Constantini, vous plaisez à revisiter des recettes d'autrefois et à en faire les vôtres, comme justement ce figadet, ou une des signatures dont vous faites une terrine, ce qui n'existe pas en Corse. En
Tout fait. À fait. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait plein d'essais. En fait, je voulais donner une dimension gastronomique à cette cuisine que j'adore, en fait. Et en fait, j'ai fait énormément d'essais où j'ai allégé en gras, où je me suis entouré des meilleurs producteurs. D'ailleurs, ma cousine est devenue folle parce que quand je faisais des tonnes et des tonnes d'essais, elle m'a toujours soutenu, alors que des fois, j'étais pas facile à suivre quand même dans mes délires. Vous savez, un chef, quand il essaye 500 loin. Fois, il va très très loin. Et au final, le livre, c'est ça, le livre Corsica, il montre en fait qu'on peut, à partir d'un ingrédient, arriver à alléger, moderniser, peut-être, mais toujours garder l'essentiel du goût. Je pense que ma cuisine plaît beaucoup aux Corses aussi, c'est important. J'ai des vieilles dames corses souvent qui viennent manger chez moi. C'est pas facile à convaincre, hein, les mamans, hein, c'est compliqué. Et elles me disent, oui, on retrouve le goût. Par exemple, je fais un sorbet à la Nebbida. Oui, c'est chez moi, en fait, vous pouvez manger des sorbets aux herbes corses. Sorbet à la Nebbida, sorbet à herba barona. Et elles m'ont dit, oui, c'est vrai que ça, j'ai l'impression d'avoir l'herba barona, c'est incroyable.
Mais je parlais de votre terrine de figadelle. Le figadelle, c'est la saucisse de foie,
oui, tout à fait.
Donc c'est possible de faire une terrine légère avec ?
Oui, alors on peut toujours alléger. On peut toujours dégraisser. Vous voyez, nous, c'est ce qu'on fait, en fait. C'est-à-dire que dans le figadelle, qui est quand même assez riche, qui peut être un peu, vous voyez, c'est du foie, forcément, quand vous en mangez. Le problème, c'est quand on fait les apéros, vous savez, nous en Corse, des fois, on peut boire pas mal d'apéros, on aime bien ça. Et si vous mangez un ou deux figadés ou par personne, vous le sentez bien, quand même. C'est délicieux, on peut pas s'arrêter, mais ça pèse un peu. Et là, le fait de l'avoir dégraissé, d'avoir ajouté des noisettes, d'avoir ajouté des girolles, et de le cuire au barbecue comme du vrai dans un mois à la terrine, du coup, on n'est jamais écœuré. Alors, c'est dangereux parce qu'on peut en manger 4-5 à la filée, mais de base, c'est beaucoup plus léger. Mais on arrive à garder le goût.
Et quelque chose qui allège souvent dans les recettes, et on le voit bien d'ailleurs dans vos recettes à vous, Jean Costantini, c'est le brooch. Le brooch, qui est ce fromage de brebis, qui est quand même emblématique de Corse.
Tout à fait.
On s'en sert pour énormément de choses. Bon, c'est un fromage de saison. Je ne pense pas qu'on soit à la saison du brooch en ce moment. Mais
ça commence.
Ça peut commencer.
Bon, ça commence.
Bon, vous faites par exemple des cannelloni au brooch, qui est un emblème de la cuisine familiale corse.
Oui, tout à fait. Bon, alors nous, on s'est un peu pris la tête, mais parce que nous, c'est notre travail et qu'on a le temps de faire ça. En fait, là, c'est des plats. Vous voyez, il y a des plats. C'est compliqué de... On va pas réinventer le cannelloni au brooch, ça n'aurait pas de sens. C'est du brooch de la Perse dans le nord, dans le sud, ils mettent un peu de menthe. Mais... Et nous, au lieu de faire des cannelloni roulés comme on fait traditionnellement, on a décidé de reproduire une petite bonbonnière. C'est-à-dire qu'on a fait des mini ravioles qu'on a torsadées, vous savez, comme les bonbons argentés, là, et on a rempli comme une petite bonbonnière, et là, tu viens les déguster comme ça. L'avantage de ça, c'est que comme le bonbon est tout petit, ça cuit en 30 secondes, et du coup, comme ça cuit en 30 secondes, le brooch n'a pas le temps de cuire. Et moi, je déteste quand le brooch, il s'assèche dans les cannelloni au brooch, j'aime quand il est fondant, encore humide, ce brooch frais, c'est ça que j'aime. Et grâce à cette recette, on le retrouve comme ça.
Il y a un autre fromage qu'on trouve d'ailleurs beaucoup sur le continent, c'est le brun du maquis. Vous faites le portrait d'une productrice, puisqu'il y a beaucoup de portraits donc de familles de producteurs dans votre ouvrage, Jean Costantini. C'est la productrice Laurence Mattei. Vous en faites une mousse, ou elle en fait une mousse? Vous qui en faites une mousse?
Non, moi, Laurence Mattei, c'est la mère de Johan Mattei. qui sont des producteurs donc de fromage en Corse, d'affillettes. Hein. Et ils font entre autres le brin du maquis. Et du coup, en fait, en hommage à cette production, qui est quand même un fromage qui est très consommé sur le continent, beaucoup plus qu'en Corse d'ailleurs, qui est un fromage frais en fait, qui est frotté aux herbes en fait du maquis et après qui est affiné. Et alors bon, ça c'est une de mes créations en fait, si vous voulez, dans mon livre en fait, moi j'ai créé le fromage trompe-l'œil. Ça a été vraiment une création. Je me suis servi des techniques que j'ai apprises avec mon mentor et en fait j'ai remplacé le praliné qu'il y a dans la base d'un gâteau par des noix, parce que en fait nous quand on mange les noix, moi ma mère quand elle faisait manger le fromage c'était trop fort, j'aimais pas forcément ça avec la brebis, donc je le mangeais avec des noix et de la confiture de figue ou de la confiture de myrte. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai créé un fromage trompe-l'œil comme ça, c'est-à-dire qu'on a mis des noix dessus, on a mis une confiture de myrte. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la technique des ganaches montées, mais en salé. La ganache montée, en fait, c'est quelque chose qui permet de faire quelque chose de très mousseux. Et on a fait une ganache montée au brin du maquis, et qu'on a montée avec un insert de poivre. Et quand vous le découpez, c'est comme un entremets, noix, myrte, mousse de brin d'amour, insert de poivre. Et tu manges ce fromage comme ça, mousseux. Alors l'avantage, c'est que c'est tellement léger, on parlait de légèreté, c'est que tu peux en manger un entier.
Il y a autre chose qu'on peut manger en entier, et qui est très léger, qui est un peu sucré, mais légèrement acidulé, qui est vraiment un produit emblématique de Corse, qu'on trouve encore en ce moment, on espère, c'est les derniers moments. C'est la clémentine.
T'as une phobie particulière, mademoiselle? T'as peur des clémentines? Mais qu'est-ce que t'as fait, la clémentine?
Mais là, je mets une clémentine là, t'es là, comme ça.
Ah, mais c'est vrai, tu peux pas?
Quelqu'un a une clémentine?
C'est vrai?
Je suis pas venu ici pour souffrir, ok?
Là, tu peux plus. Ah, là, t'es mal?
Non.
C'est vrai?
Je vais aller la mettre là-bas. Pour que tu passes un bon spectacle.
Alors, nous, autour de cette table, nous n'avons aucune phobie des clémentines. Bien au contraire. Vous mentionnez, Jean Constantini, dans votre livre Corsica, la famille Pichot, engagée dans l'agriculture bio, dont les clémentines et les pomelos sont labellisés IGP. Corse, et nous sommes en ligne avec un producteur depuis 1981 de clémentine et de pomelos lui-même. Il préside l'association pour la promotion et la défense de la clémentine de Corse, Jean-Paul Mancel. Jean-Paul. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. En chiffres, Jean-Paul Mancel, la production de clémentine corse, c'est 1710 hectares de vergers, 710 000 clémentiniers, 205 producteurs, 36 000 tonnes commercialisées. Normalement, la saison s'étale de novembre à mi-janvier, mais je crois que cette année, vous avez récolté à peu près 21% de moins. Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Même à peu près 30%, parce qu'on a les derniers chiffres. Et ben, qui se passe, c'est la nature, je pense, qui a fait des siennes cette année. Donc, nous avons moins de clémentines cette année.
Et pourtant, cette récolte marque aussi les 100 ans du tout premier clémentinier planté en Corse. La clémentine, je le rappelle, a été découverte en Algérie au début du XXe siècle. Et puis, il a été hybridé entre une fleur de mandarinier et d'oranger. Et voilà la clémentine en Corse. Cette production, Jean-Paul Mancel, s'est structurée dans les années 60 grâce à la création d'un centre. Un centre qui a une renommée mondiale, j'ai envie de dire. Centre de recherche agronomique de San Giuliano, qui possède aujourd'hui la plus grande collection mondiale d'agrumes. Et les clémentines bénéficient d'une IGP depuis 2007. C'est la seule, je crois, en France, hein, la clémentine de Corse, est la seule à avoir une IGP. Pour quelle raison? Pour faire face à la concurrence des Espagnols, notamment?
Ben, en effet, pour se distinguer, parce que dans le monde des agrumes, il n'y a pas la concurrence que de l'Espagne, il y a la concurrence du Maroc, il y a maintenant l'Afrique du Sud. Et pour se distinguer, pour se différencier, et pour proposer un produit garanti, il fallait s'orienter vers une IGP.
Elles répondent à un cahier des charges très précis, les clémentines de Corse?
Oui, il y a 69 points de contrôle.
Oula, c'est beaucoup.
Donc chaque producteur doit respecter et c'est contrôlé. Nous avons à peu près 2 mois de contrôle en période de récolte de clémentine, ce qui permet vraiment d'assurer aux consommateurs, une garantie de l'origine et de la qualité des clémentines de Corse.
Elles poussent sur tout le territoire, sur toute l'île?
Non, c'est surtout essentiellement sur la côte est de Casamotz à Solenzar.
Et comment reconnaît-on la clémentine de Corse alors ?
Alors, on la reconnaît d'abord à ses feuilles, puisque souvent il y a deux feuilles. Maintenant, c'est vrai qu'on est beaucoup copié, donc il faut quand même regarder aussi l'origine. Vous avez le logo IGP sur les caisses, et c'est à cela qu'on la distingue. On la distingue aussi à son petit cuvert, parce que souvent, en début de campagne, elle n'est pas complètement rouge, parce qu'elle est ramassée mûre sur l'arbre. Mais donc, ce qui la distingue, c'est aussi un cuvert. Et puis, d'autres caractéristiques, c'est surtout son goût un peu acidulé. Là, c'est une caractéristique vraiment corse et qui est inégalée dans les autres origines méditerranéennes.
Est-ce que la clémentine de Corse est nécessairement petite? Parce qu'on peut en trouver des plus ou moins grosses. Et il me semble quand même que la clémentine de Corse IGP, elle est petite. Est-ce que je me trompe?
Non, vous ne trompez pas, puisque nous avons à notre disposition en Corse seulement deux variétés adaptées. Une variété primeur qui s'appelle Caffin, et le 80% c'est la fine de Corse. Et la fine de Corse, en général, est quand même un petit fruit dans le monde des clémentines. C'est vrai qu'il est en général plus petit que d'autres variétés espagnoles.
Et elle est sans pépins, récoltée exclusivement à la main, et elle doit, si j'ai bien lu les cahiers des charges, rejoindre les étals dans un délai maximal de 24 heures. C'est dire la fraîcheur de la clémentine de Corse IGP. Est-ce qu'il en reste, Jean-Paul Mancel, là ?
Alors écoutez, vraiment, il en reste vraiment très très peu.
Il faut vraiment chercher
en ce moment, désolé.
Pour fêter l'anniversaire quand même, mais on l'a fêté déjà hein, depuis début novembre. On a fêté les 100 ans de cette clémentine de Corse IGP et je rappelle que manger deux clémentines par jour permet en plus de couvrir près de la moitié des apports journaliers recommandés en vitamine C. C'est dire à quel point ça vaut le coup. Merci beaucoup Jean-Paul Mancel de nous avoir parlé de la clémentine de Corse IGP. Jean Constantini, qu'est-ce que vous faites, vous, avec les clémentines ?
Nous, on fait pas mal de choses. On fait les agrumes givrés, c'est-à-dire qu'on a pris des coques d'agrumes et on a retravaillé le jus en gel, le zeste, un granité, et ce qu'on appelle des acides, c'est des zestes cuits dans le jus. Et on mange ça à plein de fraîcheur, où on n'ajoute pas de saccharose, en fait. On concentre le goût du fruit par réduction.
Et puis, en feuilletant quand même Corsica, votre ouvrage sur votre cuisine corse, j'ai relevé que vous aimez bien la marier avec l'autre trésor de l'île.
La châtaigne.
En hiver, la châtaigne. Vous faites, par exemple, le Monte Cinto, en hommage à la plus haute montagne de Corse.
Tout à fait. Ça, c'est un dessert que j'aime beaucoup, qu'on fait pour les fêtes. On l'a fait, là, d'ailleurs, récemment. En fait, on fait un biscuit... à la poulenda, donc dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait cette poulenda et dedans on va incorporer une meringue, en fait des blancs en neige très allégés, et on va faire cuire ça comme un biscuit. Et dessus, on va faire un gel à la clémentine avec des écorces de clémentine confite, le tout dans une ganache montée à la châtaigne.
Ou un soufflé châtaigne servi avec une quenelle de sorbet clémentine. On voit bien ce que peut apporter le sorbet clémentine. Cela dit, il n'y a pas que les clémentines, il y a tous les agrumes. Et là, les agrumes, c'est la pleine saison. Avec les agrumes, vous faites des agrumes confits. Vous parlez de ceux de la famille Santini, par exemple.
Tout à fait.
De la confiserie Saint-Sylvestre à Sauveria, qui sont envoyés chez quelques grands noms de la chocolaterie française. Vous faites un dessert chocolat cédra. Vous faites une omelette napoléonienne, oui, avec cédra pomelo clémentine et une tarte aux agrumes fameuse dont vous nous avez offert la recette. Merci beaucoup pour notre site. Dans les desserts fameux de Corse, on peut citer, attention à la prononciation, le fiadone.
Oui, ça va, le fiadone.
Sorte de tarte au bruccio, oui, et au citron.
Oui, une tarte,
revisité.
C'est pas vraiment une tarte, c'est un gâteau. Mais
c'est
bon,
ça.
Oui.
Les canistrelli, bien sûr.
Canistrelli, oui.
Biscuits secs. Qu'on trouve par exemple à la biscuiterie Dafa.
Tout à fait.
Tenue par Jean et François Fenech.
Oui. Qui existe à la clémentine d'ailleurs, et à la châtaigne.
Est-ce que la galette des rois, Jean Constantini, est particulière sur l'île Corse ?
Non, c'est la même qu'ici.
C'est la même qu'ici, oui. C'est-à-dire
après, la frangipane, tout à fait, la frangipane et le feuilletage. Et il existe aussi la couronne. Comme elle peut exister dans le sud de la France.
Dans le sud de la France, un peu plus.
Tout à fait. Là, c'est pareil, oui, selon les endroits. Oui, j'ai vu les deux.
Vous en faites pas de galette.
Non, moi, je suis un restaurant. La galette des rois à la fin d'un repas, c'est toujours un peu riche. Donc, nous, on essaye vraiment d'alléger en gras. Là, pour de bon, je crois que tu peux rien faire pour la galette des rois.
On va voir ça tout de suite. Il est 12h25 sur France Culture. Maurice Sacco étant coincé dans un avion, il ne peut hélas pas avec nous, pas de dialogue des cuisines à l'antenne ce midi, mais bien sûr sa chronique, il l'a écrite, elle est à lire sur notre franceculture.fr, à sa page. Lisez-la, Maurice parle de son goût immodéré pour la galette des rois et donne quelques-unes de ses adresses préférées à Paris. Pour ne pas être en reste, nous avons organisé, aux bonnes choses, un petit concours des meilleures galettes de chef, à côté bien sûr du concours national de la meilleure galette aux amandes des artisans boulangers de France, gagné cette année par Gilles Lecointre, artisan boulanger à Courville-sur-Eure, à côté aussi des différents concours régionaux ou départementaux. En toute modestie, en toute humilité, Jean-Christophe Francis, Léa Varin et moi-même avons donc invité les équipes de France Culture à participer à notre petit concours. Pour nous, la galette commencé début décembre. Nous avons eu le privilège de goûter une petite quinzaine de créations de chefs. Oui, vous faites des gros yeux, vous avez bien fait. Traditionnelles ou originales. Dans les critères, nous avons pris en considération l'esthétique générale, l'aspect galette, car comme dirait ma fille, une galette, ça doit être une galette.
Elle a raison.
La qualité de la pâte feuilletée, celle de la garniture, évidemment le goût. Le prix a pu entrer en ligne de compte, même si toutes ces galettes de chef ont tendance à rester dans une gamme un peu élevée. Voici donc le palmarès en exclusivité sur France Culture. Première, avec une note de 9 sur 10, la galette du boulanger de la Tour, avec sa pâte feuilletée pur beurre, sa crème frangipane à l'amande et son biscuit piparcacou. Classique, belle, très bonne. 4 personnes, 32 euros. 6 personnes, 46. Deuxième, la galette frangipane de Mathieu et Pauline, dont c'est en plus la première épiphanie et qui viennent d'ouvrir leur pâtisserie rue Claire à Paris. Pour 6-8 personnes, ils vous en coûteront 39 euros et je précise qu'ils font une citron noisette qui est aussi un délice. Troisième, la galette de Jeffrey Cagne pour sa belle forme, son feuilletage inversé sablonneux et son bon goût d'amande pas trop sucré relevé d'une larme de rhum. 30 euros pour 4, 42 pour 6. Et nous avons quelques mentions spéciales pour les créations originales. Superbe galette de la maison Burgundy en mode brioche feuilletée et très épicée, mais un peu chère. À la jolie corne de la maison Gazelle à la fleur d'oranger et à la chaufroid délicieuse d'Emmanuel Rion, un glacier à Paris. Voilà pour le palmarès de notre petit concours de galettes. Merci beaucoup, Jean Constantini.
Merci.
Toutes les recettes plus savoureuses des unes que des autres sont dans votre livre Corsica, paru aux éditions Ducasse, et bien sûr au restaurant à Casaluna, dans le premier arrondissement de la capitale. Et toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur notre site franceculture.fr. Pour télécharger cette émission, toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France. Les bonnes choses ont été préparées avec Léa Varin et Jean-Christophe Francis à la réalisation. À la technique, c'était Marie-Claire Oumabadi. Nous vous souhaitons une excellente journée et une excellente année à l'écoute de France Culture.